Matin Dimanche et ses magazines.
De quoi je me mêle ?
De quoi je me mêle ? Muriel Mera.
Bonjour à vous et bienvenue. Aujourd'hui, dans De quoi je me mêle, nous nous intéressons à l'hypnose médicale. Si l'hypnose a souvent été associée à un phénomène de foire et de manipulation, elle a aujourd'hui gagné en crédibilité. Elle a d'ailleurs fait son entrée dans les hôpitaux suisses dès le milieu des années 80. Et aujourd'hui, ce sont plus de 200 praticiens, médecins, infirmiers ou sages-femmes qui sont formés en Suisse romande. L'hypnose a différentes utilisations, dont la prise en charge de la douleur. Au CHUV de Lausanne, par exemple, les soins apportés aux grands brûlés, comme les changements de pansement, se font principalement sous hypnose, ce qui permet de réduire le nombre de narcoses subies par les patients. Mais encore plus fort ou intriguant, ai-je envie de dire, à l'hôpital cantonal de Genève, il est possible de se faire opérer sous hypnose. Nous nous glisserons d'ailleurs dans un bloc opératoire où nous assisterons à une opération orthopédique. Jusqu'à présent, ce type d'opération relativement importante se pratiquait sous narcose complète, mais là, à la demande de la patiente, pour la première fois en Suisse romande, elle sera pratiquée sous hypnose. Des dentistes proposent également à leurs patients l'hypnose comme alternative à l'anesthésie. Et puis il y a des thérapeutes qui misent sur elle pour atténuer certaines douleurs chroniques. Alors, l'hypnose plus forte que la douleur, c'est ce que nous chercherons à comprendre dans ce reportage signé Francine Delcozo, réalisé par Didier Rossa et mixé par Antonin Barre.
De quoi je me mêle ?
Ok, donc ce que je vais faire, c'est sur la première des deux dents, tailler pour faire une couronne, mais qui sera une couronne provisoire.
Okay.
On va d'abord faire une hypnose pour anesthésier tout ça.
Donc vous ne faites pas d'anesthésie ou autre ?
En principe, ce ne sera pas nécessaire.
Ok.
J'aimerais vous demander, est-ce que vous avez le souvenir d'une fois où vous avez eu les mains extrêmement froides ? Vous avez le temps de réfléchir et de chercher dans votre mémoire un événement où vous avez eu les mains complètement engourdies, complètement anesthésiées.
C'était en lavant des plantes à l'extérieur en hiver.
Avec l'eau très froide.
Ouais.
Est-ce que vous vous rappelez l'endroit dans lequel ça se passait ?
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez regarder dans votre souvenir tout ce qu'il y a à voir dans cet endroit ? Les formes, les couleurs, les ombres,
oui.
Les mouvements éventuels ?
Oui.
Peut-être que ça picote un peu. C'est très bien, continuez. La couleur de la peau des mains a déjà changé depuis tout à l'heure. Elles sont devenues un peu plus blanches.
Il y a un engourdissement.
Très bien. Laissez-le continuer. Alors, est-ce que peut-être la main gauche pourrait monter sur la joue gauche ? Très bien. Et transmettre cet engourdissement à la zone de la mâchoire et de la joue gauche. C'est un peu comme s'il y avait une anesthésie de dentiste. Des petits picotements.
Ça, c'est bon.
La joue et la mâchoire.
Ouais, là, je le sens.
Très bien. Les bruits extérieurs, sonneries de téléphone ou autres, ils existent, mais ça ne dérange plus du tout. Ça devient différent. Des fois, on les oublie même.
Mais je suis encore conscient. Hein.
Ben, vous serez toujours conscient.
Ouais.
On est parfois même plus conscient
ouais.
Qu'en temps normal. Lorsque vous aurez l'impression que la joue est vraiment totalement raide. Alors vous pourrez descendre le bras, qu'il revienne à sa place habituelle. Très bien. Est-ce que vous êtes confortable ? Ça va. Et si vous êtes d'accord, quand vous êtes prêt, je vais commencer à travailler sur la première des deux dents. Je vais mettre un peu de lumière. C'est parti. On peut ouvrir un peu la bouche. Je continue. Vous laissez rincer. Là, on était déjà sous la gencive. Vous n'avez rien senti là ?
Non.
Vous voyez, c'est le sourire de biais.
Est-ce que vous le sentez, ça, Florent, que vous avez le visage comme anesthésié ?
Oui, ça, je sens. Ouais.
Est-ce que le fait que je sois à côté de vous, Florent, et que je parle, vous fait sortir de votre état hypnotique ?
Non.
Et Florent peut rester dans cet état ?
Longtemps. Une fois que l'état est atteint, On peut travailler, c'est tout.
Mais c'est très étrange parce que j'ai l'impression qu'en même temps, on est très près de Florent, qu'on est susceptible vraiment de le déranger, là.
Non, non, absolument pas. La seule chose que j'ai faite, c'est lui dire que les bruits extérieurs ne le dérangeaient pas. À partir de là, il n'y a aucun problème. Ok, si vous êtes prêts, on continue.
Ouais.
Quand on dit voilà derrière. La taille est finie, pratiquement, c'est bon. Vous n'avez rien senti, là?
Non.
Parfait.
C'est très étonnant. Alors, je me faisais une autre idée de ce...
Ça, c'est...
Vous aviez quelle idée, Florent?
Mais j'avais l'idée d'une perte de conscience, puis d'un réveil, quoi.
Comment c'est possible, René Rumelet, d'atténuer la douleur?
J'ai pas de baguette magique. Il s'agit surtout de trouver, avec le patient, quelque chose qui lui parle.
Mais c'est toujours les mains froides?
Souvent, pas toujours. Mais c'est la technique la plus classique et la plus habituelle.
Mais ça signifie qu'actuellement, les terminaisons nerveuses de Florence sont dans un état différent?
Non, non. Elles marchent parfaitement bien. Par contre, le cerveau bloque l'information.
Donc ça ne se passe pas au niveau des nerfs, mais
non,
au niveau du cerveau?
Non, c'est au niveau du cerveau.
Mais je me pose une question.
Mmh.
Si je fais un acte de volonté, est-ce que j'arrive à sortir de cet état?
Bien sûr. C'est extrêmement simple. Je vais vous montrer. Vous pouvez décider par vous-même maintenant que vous allez remettre du tonus musculaire dans les pieds.
Ouais.
Ensuite, vous allez mettre du tonus dans les jambes, dans les mains.
Ouais.
Et vous pouvez bouger les doigts pour vérifier.
Ouais.
Tonus musculaire dans la poitrine, dans la tête et dans les yeux. Allez-y.
Vous avez fini avec la machine, non?
Avec la fraise, oui.
Ouais.
Il n'y a plus que l'empreinte à faire après. Et voilà.
Ok.
Ce n'est pas moi qui vous ai donné les ordres, c'est vous qui avez fait les suggestions.
D'accord.
Et en sens inverse, maintenant, si vous appuyez la tête, vous fermez les yeux un petit moment, et vous vous permettez de repartir dans cet état confortable. La détente qui revient dans le corps.
Ouais.
Ça y est déjà?
Ouais. C'est étonnant.
C'est vous le chef. Vous pouvez sortir de la transe, rentrer dans la transe à votre guise, à votre volonté, pas la mienne.
C'est étonnant.
Et si vous le faites de manière régulière, ça va rester. Si vous le faites une fois de temps en temps, ça va petit à petit disparaître. Comme n'importe quelle expérience.
Okay.
Est-ce qu'on est tous capables?
Presque tous, oui. Il y a peu de contre-indications. C'est par exemple les trop petits enfants ou les infirmes moteurs qui ont souvent des problèmes de communication. Mais autrement, pratiquement tout le monde peut être hypnotisé.
Sans danger?
Sans danger. Aucun problème.
On assimile souvent l'hypnose à un phénomène de foire où on va faire des suggestions.
Mmh.
Est-ce que vous, ça vous pose problème comme hypnothérapeute que tout le monde ait cette image-là?
Il faut déjà déconstruire cette image qui est fausse jusqu'à qu'on comprenne que c'est différent, mais que ça marche.
Est-ce que vous pourriez faire quelque chose à Florent par une suggestion? Est-ce que vous pourriez le manipuler sous hypnose?
Non, exclu. On ne peut pas aller contre la volonté de quelqu'un, lui faire quelque chose qui est contre son éthique.
Effectivement. J'ai toute ma conscience qui est présente pendant la séance. Il ne pourrait pas me donner un ordre de faire quelque chose si je ne l'accepte pas. Donc ça, je confirme totalement. Même le sens moral est là. C'est juste le corps qui est dans un état, je dirais, second. Mais le mental est parfaitement là.
Alors ce que je vous suggère maintenant, c'est de petit à petit redonner un petit peu de chaleur à votre joue et à votre mâchoire gauche. Et faire disparaître l'engourdissement.
Ok.
D'un seul coup, le tonus est revenu.
Ouais.
Et donc l'état normal en même temps aussi.
Docteur Rumelet, c'est une intervention que vous feriez sous anesthésie normalement?
Ah oui, totalement.
On n'a pas la gueule de bois en sortant d'ici, à se mordre la lèvre sans rien sentir. Donc ça, c'est vraiment appréciable, je dois dire, parce que maintenant, elle est parfaitement sensible. J'ai beaucoup de choses à rectifier dans l'idée que je me faisais de l'hypnose.
Comme je vais être opérée sous hypnose, en partie, je voulais voir un petit peu ce qui m'attendait là, dans le bloc opératoire. Donc voilà, là on peut voir l'anesthésiste qui est vraiment penché sur la patiente et qui fait son induction près de son oreille. Ils sont vraiment dans une bulle.
Quels éléments est-ce que ça vous apporte pour votre opération?
Bon, ça me rassure peut-être un petit peu.
Là, Valérie Rush, vous préparez vos affaires pour partir
oui.
à l'hôpital?
Oui, je prépare ma valise avec mes petites affaires et puis mon petit oreiller que j'ai le droit d'amener hein, pour mon confort. J'ai de la musique aussi de relaxation que je prends sur mon iPod et que j'aurai le droit d'emmener au bloc opératoire.
Vous allez subir une opération au talon?
Oui, je vais subir une opération donc au talon. C'est une intervention pour soulager mon tendon d'Achille qui est en souffrance depuis plusieurs années. Donc il va y avoir une intervention sur l'os et une intervention sur le tendon qui va être allongé.
Normalement, c'est une opération qui se fait sous narcose complète.
Oui, mais moi j'ai choisi l'hypnose aussi parce que je n'ai pas du tout envie d'être endormie complètement.
Vous habitez à Cernier, près de Neuchâtel. Ça aurait été possible de faire cette opération sous hypnose à Neuchâtel?
Alors non, à Neuchâtel, c'est pas possible. C'est pas pratiqué dans des hôpitaux. À Genève, oui. Allons-y, le sac, le petit gilet. Il fait beau, mais il peut faire frais.
Est-ce qu'à ce moment précis, il y a une petite appréhension?
Oui, quand même. Un petit peu. Alors voilà, on ferme. À dans quelques jours.
On arrive ici, Valérie, devant l'entrée des HUG.
On arrive pour mon entrée administrative aujourd'hui et puis mon installation dans le service.
Vous avez emmené ici à l'hôpital votre iPod.
Oui.
Est-ce que je pourrais entendre les musiques que vous avez prises pour l'opération?
Oui, alors tout à fait. J'ai des musiques... plutôt des sons, alors ce sont des sons dits chamaniques, des tambours, il y a des diapasons, des gongs. C'est ma façon à moi pour m'aider à partir en transe.
C'est le terme qu'on utilise, une transe hypnotique.
Voilà. Ouais, c'est un terme qui fait peur, la transe, on s'imagine tout de suite un feu, des tambours vaudou, et voilà. Mais c'est une façon de partir... d'être dans un état complètement de conscience différente. On n'est pas endormi, on est dans l'état de veille, mais complètement différent.
Bonjour.
Bonjour.
Waouh, ça va?
Oui, et vous?
Ouais.
Sabine, vous êtes l'une des infirmières qui a soigné Louis.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le croisez ici au CHUV?
Moi, oui, ça ravive des souvenirs et ça me fait plaisir de le voir comme il est maintenant, comme... voilà.
Quel souvenir en particulier vous gardez de Louis?
Il était un très bon sujet pour l'hypnose. Et c'était très facile avec M. Nussbaumer.
C'est à cet étage-ci qu'il y avait votre chambre?
Oui, c'était la première grande chambre où on faisait les douches sous hypnose. Ça devait être la deuxième ou la troisième chambre.
Ouais.
Voilà.
Vous proposez l'hypnose à tous les patients brûlés qui arrivent ici au CHUV, Sabine Rochat?
Alors oui, on propose. C'est maintenant devenu une systématique. Et après, bon, les patients sont libres de dire oui ou non.
Quel pourcentage vous dit non?
Un petit pourcentage. Des fois, il y a une hésitation, puis on leur propose de faire une séance pour voir voilà, ce que c'est. Une grande partie est quand même preneur. On commence toujours le plus tôt possible avec les patients brûlés, dès que voilà, ils sont plus intubés, ils sont assez conscients pour se concentrer. Je vais juste voir si elle est brûlée. Elle est occupée, oui.
Je me souviens particulièrement, je pense que c'était la première fois. la première séance d'hypnose que j'ai faite ici à l'étage avec Sabine, et ça, ça m'a marqué, je dirais, au fer rouge. Je ne sais pas si on peut prendre l'expression. Chaque fois que j'entends sa voix, quand je reviens maintenant, ou les quelques fois où je suis revenu en visite pour une consultation médicale au CHUV, je dirais presque qu'elle pourrait devenir gourou, parce que sa voix a sûrement un effet, vraiment, c'est comme si c'était une voix de référence, comme je pourrais l'imaginer, la voix d'un parent sur un bébé. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort.
On est au cœur du sujet de l'hypnose, là, Sabine, gourou. On a tous dans la tête l'image d'une hypnose, effectivement, où l'on devient un grand manipulateur, capable d'influencer et de manipuler les autres.
Alors, c'est vrai, cette image est assez répandue, mais l'hypnose telle qu'on la pratique ici au CHUV n'a rien à voir avec ça. Déjà, en fait, l'hypnose ericksonienne. Erickson était un psychiatre aux États-Unis qui a développé cette façon de faire l'hypnose dans le milieu médical. Avec cette technique, on ne peut pas manipuler le patient.
Vous êtes sûre de ça?
Oui. Si on le fait dans le respect et dans l'éthique, oui.
Louis, votre point de vue, vous n'auriez pas été manipulable. Vous étiez blessé, vous étiez très dépendant finalement des infirmières.
Vous me surprenez avec la question, j'ai pas du tout pensé jusque-là. J'avoue que j'étais complètement entraîné. Et en fait, je sentais une douceur telle dans la voix et dans les propos de l'infirmière que pas une seconde, j'aurais pu penser à ça. Ah ouais, la salle de physio.
Vous étiez ce côté-là, vous avez cette vue, vous avez...
J'avais cette vue-là, oui, exactement. C'est marrant. Au début, on me posait sur une espèce de lit avec un trou au bout et on me douchait, on m'enlevait des croûtes, on me changeait mes pansements. Et de savoir qu'on allait le faire, qu'on me déplaçait, ça m'effrayait en effet parce que ma peau, c'était comme du carton figé. Et puis tout à coup, commençaient ces questions et ce voyage. Et là, ça me focalisait. J'étais tellement focalisé sur ça que la douche se terminait, j'avais rien vu du tout, j'étais crémé, emballé. Et puis j'avais juste pas envie que ça s'arrête.
On demande au patient de porter son attention à son corps, aux sensations. Et ensuite, on l'amène à sa safe place, on appelle ça. Un endroit que c'est lui choisi, il se sent bien, en sécurité, où il peut se réfugier pendant les séances de pansement qui sont assez éprouvantes. Et on explore comment c'est, ce qu'il sent, ce qu'il voit... S'il est avec quelqu'un, comment c'est? Mais je ne sais pas si lui, il veut raconter.
Louis, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que vous vous souvenez, vous, de ce lieu que vous aviez choisi?
Une croisière. C'est une invitation en voyage avec Sabine. Et très rapidement, elle me posait plein de questions. Et elle me faisait participer. Et puis du coup, j'étais entraîné dans cette histoire. C'était comme si vraiment on allait partir. C'était incroyable.
Il était bien sur son bateau, il fait piquer même des fois une petite plongée dans l'eau. Parce que quand on fait un pansement de brûlé, on décolle les pansements avec de l'eau sous la douche. Parce que souvent, c'est là la phase la plus douloureuse. Et c'est vrai, souvent, j'invite les patients de partir comme ça.
Ça permet d'éviter à ce moment-là de faire une anesthésie supplémentaire, voilà. C'est ça le but?
Voilà. Parce qu'on sait... On ne peut pas enlever les douleurs avec l'hypnose, mais la perception change de la douleur.
Comment vous expliquez, Louis, que la douleur à ce moment-là disparaissait ou s'atténuait? Je ne sais pas quel mot vous choisiriez.
Je choisirais disparaîtrait, voire même plus. Je ne sais pas quel mot choisir, mais c'était sortir de son corps. J'étais vraiment sur le pont en voyage et c'était... Je ne me souviens vraiment pas d'une seule douleur. J'imagine qu'à certains moments, il y a des endroits qui sont plus difficiles que d'autres, mais... Pour moi, c'était vraiment détaché, j'étais pas du tout là.
Dans la salle de physiothérapie, ici, un grand miroir, Louis. Est-ce que vous évitez les miroirs aujourd'hui?
Pas du tout. Je sais que certaines personnes qui ont été brûlées refusent de se voir dans le miroir. J'avoue que j'ai eu la chance que mon visage, qui est quand même la première carte de visite qu'on a avec quelqu'un, a été partiellement préservé. Si j'enlève mes gants, j'ai encore des vêtements compressifs qu'il s'agit de porter pendant 2 ans après l'accident. Si quelqu'un se demande qui m'est arrivé au visage ou s'il m'est arrivé quelque chose de spécial, par contre, si je lui serre la main, qu'il voit ma main sans gants, là, il va voir quelque chose qui joue pas. Donc, c'est marqué.
Il est temps de retrouver Valérie Reuge que vous avez laissée tout à l'heure, Francine Delcozo, à l'entrée des HUG de Genève. Là, c'est le grand jour pour elle. Elle est au bloc opératoire et elle s'apprête à subir sous hypnose une opération au talon.
Elle est installée. Beaucoup de monde se prépare à entrer dans le bloc, notamment le chirurgien et deux anesthésistes, dont la doctoresse Nicole Chezeau, chef de clinique, qui va pratiquer l'hypnose et lui administrer une anesthésie locale.
Mais si on lui administre une anesthésie locale, pourquoi en plus la mettre sous hypnose?
Alors pour une opération de cette envergure, difficile en effet d'être sûr absolument que toutes les terminaisons nerveuses soient complètement endormies jusqu'au bout des orteils. Même si c'était le cas, l'imaginaire risquerait d'amplifier la peur. C'est une possibilité aussi.
Mais à l'inverse, on ne pourrait pas que la mettre sous hypnose?
Non, l'entendu, l'hypnose n'enlève pas la douleur. Elle permet de s'en distraire, de vivre avec. D'ailleurs, l'hypnose aujourd'hui n'a pas pour vocation de supprimer totalement les anesthésies, mais surtout de les alléger. Et une anesthésie générale n'est jamais quelque chose d'anodin. Certaines personnes les supportent très mal. C'est l'une des raisons pour lesquelles Valérie Reuge, qui est elle-même infirmière et formée en hypnothérapie, a choisi l'hypnose.
Valérie Reuge qui s'en remet donc au talent et à la voix de l'anesthésiste hypnothérapeute Nicole Chezeau.
Bonjour, bonjour. Ouais. Je vois que vous êtes toout équipé, c'est parfait. Ouais. Vous avez déjà commencé vos petits exercices?
Oui.
Très bien. Vous êtes parti vous balader. Donc des endroits agréables de sécurité. Très bien. Sur les chemins de Saint-Jacques. Ouais. Parfait. Donc, voilà. Le sac au dos.
Ouais.
Je vous mets juste
parfait.
Un petit bonnet sur le dos.
Ouais.
Et là où vous pouvez puiser des ressources.
Oui.
Parfait. Et vous avez votre musique avec vous. Mm-hmm. Et puis tranquillement, autour de vous, tout le monde s'installe. Je vais prendre votre bras pour installer le goutte à goutte. Et puis pendant toute cette préparation et toute l'intervention qui va suivre, ma voix vous accompagne. Peu à peu déjà, vous entrez à votre rythme dans cet espace particulier de détente. La veine est bien ouverte et le goutte à goutte est en place pour votre sécurité. On peut injecter. Peu à peu, cette anesthésie locale qui s'installe là maintenant et qui brûle légèrement, endort la place localement. Comme si cette jambe était la jambe d'une statue.
Alors une lame 111, s'il vous plaît. Voilà, donc visiblement la patiente ne réagit pas. Voilà, donc on a ouvert la peau. La peau est maintenant ouverte et on se dirige vers la profondeur. On a vraiment l'impression que la patiente est confortable.
Ces bruits à l'extérieur de vous ici vous permettent d'entrer encore plus intensément dans la musique.
History. Là, on est un petit peu prudent parce qu'on sait qu'on est dans une zone où il y a passablement de petits nerfs. Il faut éviter, bien entendu, de toucher.
Peut-être que de temps en temps, un caillou se rencontre sur le chemin. Le pied peut être instable, mais que ce chemin est un chemin agréable qui mène quelque part. Il mène là où vous voulez aller.
Je crois que je peux donner un coup de marteau.
Peut-être ces sensations de secousse.
Et toujours la patiente qui n'exprime aucune douleur. Tu vois, ça c'est possible, c'était ce qui lui faisait mal.
Petite bouteille, là.
La nouvelle lame de bistouri, s'il vous plaît. Voilà, maintenant c'est un peu particulier parce qu'on va utiliser une petite scie pour resséquer un fragment d'os du talon. Et évidemment que ceci génère du bruit.
Et qu'étape après étape, ce bruit est là. Que vous pouvez choisir avec confiance d'écouter cette musique en laissant les nuages passer dans le ciel. laisser passer à leur rythme.
Bistouri pincette. Voilà, tout petit coup de scie encore. On peut enlever la scopie, s'il vous plaît. Ouais.
Et le silence agréable. Très, très bien. Et savoir que chaque pas que l'on a fait, chaque étape accomplie.
L'intervention est en train de toucher à sa fin et que nous allons maintenant fermer les plaies chirurgicales. Voilà, nous sommes en train de fermer la peau, ce qui est probablement ce qu'il y a de moins douloureux dans cette intervention. Et là encore, la patiente n'exprime aucun signe de douleur. Donc, l'anesthésie par hypnose a été un réel succès sur le plan de l'absence de douleur péropératoire.
Peu à peu, pendant que le pansement se termine, en comptant dans votre tête de 5 à 1, 5, tranquillement, vous pouvez commencer à bouger le reste du corps. 4, que l'inspiration peut être plus profonde, plus intense. 3, peut-être que les yeux commencent à prendre contact avec l'extérieur. 2, que certains bruits autour de vous sont plus présents. Et que 1, à votre rythme, quand vous avez choisi d'ouvrir les yeux, vous retrouvez cet espace autour de vous, ici et maintenant. Et vous savez que l'intervention est terminée. C'est terminé.
Super, bravo.
Moi, je vais vous ôter toutes les choses qui vous maintiennent attachées avec l'écran de surveillance de l'anesthésie et je vais appeler vos infirmières de manière à ce que vous puissiez monter dans votre chambre. Et si vous souhaitez boire et manger, vous pourrez le faire de suite.
Oui, ça, c'est l'avantage.
Docteur Mathieu Assal, c'est vous qui avez opéré la patiente Valérie Roche. Est-ce qu'il y a une exigence particulière pour une opération comme celle-ci?
Oui, il faut peut-être être un peu plus prudent par rapport au bruit environnant dans la salle d'opération, avoir des gestes peut-être un peu plus doux. On ne veut pas faire sortir le patient de son état d'hypnose.
Au niveau des tissus ou du tonus musculaire, par exemple, est-ce qu'il y a des différences? Vous avez perçu ça?
Pas vraiment. On ne peut pas dire que, disons, l'hypnosédation ait une influence sur la qualité des tissus.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet sur la cicatrisation, par exemple?
Ça sera difficile à déterminer. Mais un patient qui est à l'écoute de son corps, comme l'a été cette patiente, est un patient qui probablement prend plus soin de lui et offre des meilleures conditions de guérison et finalement de cicatrisation à son corps. Et donc il n'est pas tout à fait exclu que cette cicatrisation puisse se faire de façon plus harmonieuse. En ce qui me concerne, c'était ma première expérience. Ce sont des mécanismes qui m'échappent un peu personnellement, qui peut-être échappent aussi à la science. Et donc pour moi, ça reste quelque chose effectivement d'un peu mystérieux.
Et ce mystère, il est compatible avec le sérieux de la blouse blanche du chirurgien? Ou est-ce qu'il y a un risque de problème de crédibilité?
Oh, je ne pense pas. L'hypnose a quand même fait beaucoup de chemin dans l'esprit des médecins et des patients. Et il y a quand même beaucoup d'études qui prouvent son efficacité.
Et là, vous l'avez expérimenté de manière extrêmement pratique avec une opération qui taille véritablement dans le corps humain.
Alors effectivement, on a pu vérifier ceci. Nous sommes allés au centre du corps, puisque nous avons même scié l'os, ouvert les chairs, rattaché les tendons, ce qui prouve bien que la situation était sous contrôle sur le plan du contrôle de la douleur.
Il
Mon nom est Sheila Ardigo, je travaille comme chef de clinique donc à l'hôpital des Trois Chênes, l'hôpital de gériatrie à Tonnet. Donc depuis le mois de mars, donc on propose aux patients hospitalisés à l'hôpital des Trois Chênes avec des problématiques de douleurs chroniques des séances d'hypnose en plus que les traitements médicamenteux classiques. Dans l'hypnose, ce qui est intéressant, c'est que le patient est extrêmement actif. C'est-à-dire que c'est le patient qui, aidé par le thérapeute, apprend à se focaliser son attention sur ses ressources. Il n'y a pas de prêt-à-porter, c'est toujours du sur-mesure. Et même chez le même patient, à chaque fois, ça peut changer. Donc effectivement, chaque personne, chaque personnalité, chaque problématique est un peu à part. Donc c'est clair que comme thérapeute, on a une position beaucoup plus humble.
Humilité du médecin, c'est-à-dire que ça change par rapport à une pratique habituelle?
On a souvent une idée de médecin comme de la personne, ou des soignants en général, des personnes qui détiennent un peu les secrets de la guérison. Ce que je trouve intéressant, finalement, en médecine en général et dans la pratique de l'hypnose, c'est qu'on fait un peu plus recours aux ressources du patient. On se demande et on interpelle le patient par rapport à quelles sont finalement les ressources qui pourraient être utilisées par le patient pour aller vers un meilleur confort au quotidien, peut-être une guérison. C'est possible, ou en tout cas toujours une meilleure qualité de vie. Et qui mieux que le patient peut savoir qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui peut l'aider, ce qui l'a aidé dans le passé et ce qui pourrait l'aider encore dans le présent. Donc là, je vous propose qu'on aille rencontrer Madame Monnier, qui est donc une des patientes qui a accepté de faire cette expérience et d'apprendre à faire de l'auto-hypnose pour mieux gérer un peu ses douleurs chroniques. Elle a des problèmes osteo-articulaires, donc des problèmes d'arthrose et une fibromyalgie. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital il y a à peu près un mois, elle n'était pas sortie de chez elle depuis 3 mois. Alors, rebonjour Madame Meunier, c'est déjà vu ce matin un petit moment. Alors, vous partez demain, donc je vous propose une dernière séance avant le retour à la maison. Alors, quand vous êtes prête, on peut commencer. Je vous laisse prendre la position habituelle, on va le faire ensemble. Vous mettez les bras comme vous voulez. Et puis, laissez les yeux regarder le plafond. Prenez bien le souffle, gardez l'air. En laissant que les paupières se ferment à leur rythme. Et vous sortez l'air. Très, très bien. Simplement, à votre rythme, laissez que l'attention se porte sur la respiration. Très bien. Comment vous sentez-vous?
Bien, bien. Tout va bien.
Tout va bien.
Si j'étais comme ça toute la journée.
Madame Monnier, vous avez quel âge?
84 ans.
Comment vous avez réagi lorsque la doctoresse vous a proposé des séances d'hypnose?
D'abord, un peu par curiosité, parce que je voyais quelqu'un qui vous regardait au fond des yeux, qui vous endormait, comme un détecteur de mensonges, mais un détecteur de vos pensées.
Vous allez rentrer demain, Madame Monnier. Est-ce que vous aurez envie de pratiquer de l'auto-hypnose chez vous?
Je crois quand même que je vais essayer. J'ai suffisamment de temps pour exercer. On prend peut-être pas le temps de recourir à autre chose qu'un médicament radical. Et je pense que ça va un petit peu au-delà. Parce que, en fait, c'est peut-être vous qui vous aider et pas quelque chose d'extérieur. Je pense que c'est ça. On ne peut pas tout recevoir de l'extérieur. Je me rends compte qu'il faut prendre le temps de s'aider, ce que je n'ai jamais fait.
Mathieu Assal, oui. Alors rappelez-moi une fois que vous êtes au bloc opératoire, d'accord ? À tout à l'heure. Voilà. Donc nous allons descendre voir Madame Reuge, qui est en fait un jour après l'intervention, comme elle est rentrée du bloc opératoire hier en fin de journée. On va aller voir comment se passent les choses ce matin. Alors en général, pour un patient qui a été opéré, le moment le plus difficile, c'est surtout les 24 heures qui suivent l'intervention. C'est là qu'il y a en général le plus de douleurs. Nous voici. Me voici. Vous avez le grand sourire, je vois.
Je suis en pleine forme, je suis prête à partir. Tout va bien.
Oui, ça va.
Madame Reuge n'a pas mal, ça vous surprend ?
Un petit peu quand même, parce que... On a quand même fait une intervention, une opération en profondeur. On est allé, on est passé à côté des muscles, sur les tendons, à travers à côté des nerfs. C'est un peu inhabituel. En général, les patients ont un peu plus mal que ça. Et donc, c'est très encourageant pour la suite. Parce qu'un patient qui a peu de douleur en post-opératoire est quand même un patient qui est sur des bons rails. Alors, ce matin, on va ouvrir le pansement. On va déballer le tout. Alors, je vais vous laisser soulever la jambe.
Gros, moyen, petit.
Moyen. On voit bien qu'elle n'a pas eu d'anesthésie générale. Et c'est un avantage de l'hypnosédation, évidemment. On voit quelqu'un qui est frais, en fait, comme avant l'intervention.
Vous aviez votre oreiller, Valérie, pendant
oui.
L'opération ?
Mon oreiller m'a suivi. J'étais très, très bien installée. C'était parfait. J'ai entendu, alors pour moi dans ma tête, c'était l'image d'un burin avec un marteau, là, toc toc toc, sur l'os.
Ah, vous avez entendu les bruits ?
Ah, j'ai tout entendu, j'ai vraiment tout entendu. Je sentais où vous interveniez. Le tendon, j'ai pas aimé, du tout.
Localement, en tout cas, vous n'aviez pas d'expression de douleur. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun mouvement de retrait, mouvement exprimant la douleur, donc... C'est pour ça que j'étais très, très confiant et même impressionné de voir à quel point... Oui ? Vous avez besoin de moi pour opérer ce patient ?
Valérie Reuge, comment vous évaluez la douleur sur une échelle de 1 à 10 pendant l'opération ?
Alors, pendant l'opération, je dirais que j'étais à 3-4 à peu près. Il y a eu un pic de douleur, effectivement, où là, je peux dire que c'était monté à 9-10. Là, vraiment, j'ai eu un pic très violent.
Vous étiez sûr que si la douleur montait, vous aviez un moyen d'exprimer qu'il fallait faire quelque chose ?
Oui, alors on avait convenu avec l'anesthésiste. Elle me tenait la main pendant l'intervention. Et si je serrais la main, c'est qu'il y avait besoin d'une intervention pour la douleur. Et ça a vraiment été très important pour moi.
Encore un peu ?
C'est tout bon, c'est tout bon.
Merci.
Et
à
on
vous.
Se tient au courant, hein ? Oui. Vous avez mes coordonnées.
Merci. Au revoir.
Vous étiez très motivé, vous connaissez bien l'hypnose, vous vous étiez préparé. Est-ce que vous pensez qu'on a tous cette capacité-là ?
Oui, moi je me suis vraiment préparée. J'ai fait beaucoup d'auto-hypnose avant, à savoir si tout le monde peut. Je pense que tout le monde pourrait peut-être, mais il faut vraiment, je pense, se préparer. En tout cas, trouver une sacrée confiance avec le chirurgien, l'anesthésiste, pour pouvoir se laisser aller, quoi, complètement lâcher, et puis pouvoir partir en transe, mais vraiment en toute confiance, oui.
Donc, à midi, Madame Rejon vous propose steak haché de volaille avec sauce diable, polenta, chou-fleur et céréales abricot comme dessert. Ça vous va. Et le soir, galette végétarienne. Vous partez.
Je suis loin. À casa.
Je suis un verre d'eau claire, je suis de la rivière, je suis comme la vitre, soleil pas. je suis. Je reviens d'un marais de l'étendue nos salles, un rideau sur la vitre, tout ce bleu qu'on évite. Tu sais qui j'étais. On est des toutes petites choses. On se cherche encore un abri. Je sais où l'on est. On est des toutes petites choses. On se cherche encore un abri.
Aujourd'hui, dans De quoi je me mêle, nous avons effectué une plongée dans le monde médical en nous intéressant au rôle de l'hypnose dans la prise en charge de la douleur. Et Francine Delcozo, dans votre reportage, nous avons donc assisté à l'opération de Valérie Reuge qui s'est fait opérer au talon. C'était la première fois en Suisse romande qu'une opération de cette importance était pratiquée sous hypnose. Ça veut quand même bien dire que même si l'hypnose est reconnue par le corps médical, on en est encore un peu au balbutiement.
En partie, oui, mais l'hypnose a fait son entrée dans les hôpitaux, dans le domaine de l'anesthésie, dans les années 80, sur la pointe des pieds. Les médecins étaient alors quand même considérés comme des farfelus, mais c'était l'époque des pionniers. On constatait alors que l'hypnose marchait, mais sans pouvoir véritablement expliquer ni pourquoi ni comment. Maintenant, c'est la deuxième génération de médecins qui sont formés à l'hypnose. Beaucoup d'études sont en cours, vous l'avez entendu, en gériatrie, mais il y a aussi une étude en cours où à juger sur l'éversion, ce mouvement qui permet de retourner les bébés qui se présentent par le siège juste avant la naissance. On est donc, avec toutes ces études qui se développent, en train de passer de l'hypnose de croyance à l'hypnose scientifique. Même s'il reste une part de mystère, l'imagerie cérébrale permet désormais de visualiser, d'objectiver en partie l'impact de l'hypnose sur notre cerveau, en particulier sur les zones activées dans la perception de la douleur.
Alors, pour mieux comprendre cette interaction complexe qui se joue entre hypnose et cerveau, vous avez interviewé un grand ponte québécois de l'hypnose, il s'agit de Gaston Brosseau. Cette interview, on peut l'écouter sur notre site internet www.dequoi.rsr.ch. Votre reportage donnait l'impression qu'il était quand même assez facile d'entrer en transe hypnotique, que hop, 2 minutes suffisaient. En fait, c'est un peu plus long que ça. Il a fallu par exemple 20 minutes au dentiste hypnothérapeute pour faire entrer son patient en transe. S'il lui avait administré une piqûre, ça aurait été beaucoup plus rapide. Est-ce qu'à l'heure de Tarmed, hein, où le temps des médecins est compté, il n'y a pas un risque de faire exploser les coûts de la santé en utilisant l'hypnose?
Alors en partie aussi parce qu'effectivement l'entrée en transe est assez longue, hein. Même Valérie Roche qui a l'habitude a mis à peu près 30 minutes pour partir en transe. Et autre élément, on ne s'improvise pas. Hypnothérapeute, que l'on soit médecin, anesthésiste, généraliste ou dentiste, hein, il faut minimum 2 ans. On est quand même dans un domaine délicat, celui de la suggestion et de l'autosuggestion. Donc une formation de 2 ans minimum. Mais une étude du CHUV publiée récemment, le CHUV qui a du recul puisque le traitement des grands brûlés se fait depuis 2006, cette étude montre qu'au final, les patients soignés sous hypnose coûtent moins cher que les autres, une économie de 17 000 francs en moyenne par patient.
Et comment on explique ça ?
Alors avec l'hypnose pour les grands brûlés, moins d'anesthésie générale, moindre recours à des antidouleurs lourds comme la morphine et une hospitalisation plus courte aux soins intensifs, sans parler des coûts humains pour les soignants aussi, très soulagés de moins torturer les patients qu'ils ont en charge.
Donc voilà, c'est plutôt optimiste comme information. Par contre, pas tous les hôpitaux de Suisse romande pratiquent actuellement des interventions chirurgicales sous hypnose.
Non, pour l'instant, c'est pratiqué donc pour les grands brûlés au CHUV et pour les interventions chirurgicales aux hôpitaux universitaires de Genève. Et à Genève, c'est toujours à la demande du patient qui sont très motivés, sauf pour des interventions bénignes. Par contre, les cabinets médicaux de généralistes ou de dentistes se trouvent partout en Suisse romande. Et merci au passage au docteur Laurent Chalère, à Moutier dans le Jura bernois, qui m'a donné vraiment des clés essentielles pour ce reportage.
Mais on peut imaginer que dans le futur, pour l'instant c'est encore un peu marginal, on peut imaginer que dans le futur ça prenne un peu plus d'ampleur, comme c'est le cas je crois en Belgique.
Oui, à Liège, il y a 400 interventions sous l'impulsion de la professeure Fémonville. Il y a 400 opérations et des opérations toujours plus compliquées qui se font sous hypnose par année. On en est à 20 à Genève pour l'instant.
On a encore de la marge, effectivement. Merci beaucoup Francine pour toutes ces précisions et puis également pour votre reportage qui nous a permis d'appréhender l'hypnose sous une autre facette que celle peut-être de la crainte, de la manipulation. Et puis ben maintenant, c'est à vous de jouer, les auditeurs. On attend vos témoignages au 021 318 14 49. On aimerait beaucoup savoir si vous vous sentiriez prêt à subir une opération sous hypnose et sans anesthésie générale.
Oui, allô, bonjour.
Pour réagir à ce que vous venez d'entendre,
le répondeur. De quoi je me mêle ?
La semaine dernière, dans De quoi je me mêle, Marc Jouze nous a emmenés sur l'île du Levant. Cette île française attire depuis plus de 80 ans des adeptes du naturiste. Mais point de sectarisme à l'île du Levant. Les textiles aussi sont les bienvenus. Il y a d'ailleurs des zones de l'île où il est interdit d'être nu, d'autres zones où il est interdit d'être habillé, et enfin des lieux mixtes. Ce qui ne va pas sans conflit d'ailleurs entre ceux qui voudraient plus d'espace dédié à la nudité et ceux qui prônent au contraire un strict respect des règles établies. Voici quelques-unes de vos réactions suite à ce reportage.
Je trouve que la conclusion comme quoi les 25-45 ans ne sont pas représentés au Levant, c'est n'importe quoi. Et en plus, à ma connaissance, vous n'avez pas demandé l'avis aux jeunes, quoi. Vous parlez aux gens qui sont là depuis longtemps, vous parlez aux gens qui viennent d'arriver, qui font leur commerce, aux gens qui sont étroits d'esprit, comme vivre au Levant, qui n'ont rien à faire au Levant d'ailleurs, qui n'ont qu'à partir habiter ailleurs s'ils ne sont pas contents. Par contre, les jeunes du Levant, la jeunesse du Levant, vous avez mais absolument rien demandé à personne. Et moi, je trouve ça ridicule parce qu'on est quand même l'avenir du Levant.
En écoutant votre émission ce matin, je me suis souvenue d'avoir été à l'île du Levant à l'âge de 23-24 ans avec un ami. Et je suis restée une semaine là-bas et j'ai eu beaucoup de plaisir. Pourtant, c'était la première fois que je faisais du naturisme. Mais je n'en ai plus jamais refait parce que j'ai attrapé un coup de soleil sur la poitrine et les fesses dont je me souviendrai toute ma vie. Alors voilà.
Je suis naturiste depuis l'âge de 18-20 ans. J'étais dans la région parisienne. C'était le naturisme libre. Après, j'ai 80 maintenant. Je vis toujours nue chez moi dans un pré isolé. Je souhaite dire que c'est dommage effectivement que le naturisme vire au voyeurisme. Et je pense que les naturistes ne sont pas agressifs, sont courtois. On ne peut pas être agressif quand on est tout nu. Et je souhaiterais que ça se répande un peu plus pour la santé mentale et physique. Je rappelle, j'ai 80 ans. Santé mentale, je ne sais pas, mais santé physique, elle est prouvée.
Time for waking up now, it's time to take my racks. I'm leaving my hometown now, I'm leaving with my bags. I close the doors behind me, into the hills I go. If you could only see me, cause I want you to know. It's a long way, out of my own town, into your own town. It's a long way, out of my own town, into your own town. I'm singing to the music, but I know it's in my mind. Don't care about the maker, don't care about the world. I'm looking for the answers while I'm walking in the dirt. I'm walking over mountains, I sail across the sea. I meet all kind of creatures and I feel you here with me. I'm talking to the people, I ask them for the way, but they only stare at me, believe no word I say. It's a long circles, they say that I'm insane, but since the day you died, something changed in my brain. Well, it was just too much for me, I found no help in talking. Who can show me where to go? I have to keep on walking. My own.
De quoi je me mêle, il est temps de se dire au revoir. L'équipe du jour était composée de Francine Delcozo pour le reportage, Stéphanie Jovanovic pour le choix des musiques, Didier Rossa pour la réalisation, Blaise Favre qui a assuré l'enregistrement en salle d'opération, Marie Némon est notre assistante de production et Antonin Barre, lui, assure la technique. Vous pouvez réécouter cette émission n'importe quand sur notre site internet www.dequoi.rsr.ch. Vous pouvez également la télécharger. Demain, au programme de quoi je me mêle, un reportage de Christophe Canu consacré à la plus mythique de nos montagnes, le Cervin. Il nous emmènera sur sa face nord où les touristes viennent en masse tenter son escalade et puis également sur sa face sud où en solitaire, on trouve encore des alpinistes qui viennent ouvrir de nouvelles voies. Les deux faces du Cervin, ce sera donc le reportage que vous pourrez entendre demain dans De quoi je me mêle dès 9h.
De quoi je me mêle avec Le Matin Dimanche et ses magazines.
Bel après-midi à vous, il est 15h sur la première.